RMC, After Paris,
François Pinet.
After Paris, vous le savez, retrouvez en podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube, et vous pouvez nous regarder également sur After Foot Télé. Dans cet épisode exceptionnel, on va avoir le droit au mea culpa de Jimmy Brown sur sa phone off. Salut Jimmy.
Pardon Matt Veil. Pardon, mais pas que Matt Veil.
Ça sera un grand moment.
Mais pas que Matt Veil. Salut tout le monde. Quel bonheur, quelle joie. Moi, je suis comme un dingue aujourd'hui.
On va avoir également l'appel de Julien Taxis pour que Kvaratskhelia ait déjà le ballon d'or dès maintenant. Salut Julien.
Salut François. Salut à tous les doubles finalistes de la Ligue des Champions. Et puis, oui, go Kvara. S'il avait la Coupe du Monde, franchement, il serait.
Ouais. Allez, moi, je lui donne quand même, même s'il fait pas la Coupe du Monde. Pourquoi pas? On en parlera de Kvaratskhelia, bien sûr. On aura aussi, dans cet After Paris exceptionnel, la déclaration d'amour d'Arthur Perrault pour Luis Enrique. Il ne peut pas le faire en conférence de presse, pas très déontologique, donc là, il peut le faire, il en profite. Salut Arthur.
J'ai essayé hier, il m'est rentré dedans, je me suis pris un coup de bambou en retour.
Tu lui dis pas que tu l'aimes.
Non, je lui ai juste demandé s'il y croyait plus que jamais à ce back-to-back.
On entendra d'ailleurs.
Vous n'allez pas être déçu du voyage, tiens.
Et puis, on va enfin parler de Pacho quand même dans cet After Paris à un moment donné.
Depuis le temps.
Là, franchement, bon, on en parlera peut-être.
On fera une spéciale un jour.
On en parlera de Pacho. Donc restez avec nous avant de rentrer dans le détail de ses performances individuelles. On va bien sûr parler de ce match, se projeter un peu sur la finale, même si on aura l'occasion de le faire jusqu'au 30 mai. Et on va aussi écouter les acteurs. Je vous propose de commencer cet After Paris en écoutant Marquinhos, le capitaine, puisque après le Real Madrid en 2016, 2017, 2018, le PSG, 10 ans plus tard, retrouve une finale de Ligue des Champions deux fois de suite. On écoute Marquinhos parce que c'était pas forcément le plus simple.
Une fois, c'est déjà difficile. Une deuxième fois consécutive, c'est encore plus dur. Et nous, on travaille pendant toute l'année pour vivre des émotions comme ça en fin de saison. Et tout ce qu'on a passé l'année dernière, on voulait vivre encore une fois. Et c'est comme ça notre mentalité. Je pense qu'on arrive en finale, on a célébré. Mais il faut garder la bonne tête, la bonne mentalité, comme on a fait l'année dernière. On a des objectifs à aller chercher et voilà, ça va être très important de gagner une deuxième fois la Ligue des Champions. C'est ça notre objectif.
Objectif, gagner une deuxième fois la Ligue des Champions. Arthur, tu voulais réagir à ce que disait Marquinhos. Toi, tu étais à Munich.
Oui, et je trouve que c'est peut-être celui qui est le plus dans l'émotion. On a vu Pacho avoir quelques larmes aussi au moment du coup de sifflet final. Lui aussi est allé un peu dans ce côté émotion. Et je trouve que cette phrase est très, très belle quand il dit que voilà, la première, c'était belle. Elle était déjà très belle, mais que là, c'est encore plus impressionnant.
Il dit c'est plus dur, et moi, je suis d'accord. Que ce que réalise le Paris Saint-Germain cette saison est plus dur, entre guillemets. L'année dernière, il fallait qu'il se convainque qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait aller remporter une première Ligue des Champions, là, avec tout ce que l'on a connu, avec la pancarte que tu avais dans le dos, avec le gros coup de mou qu'il y a eu janvier-février, là où il y a eu énormément de doutes. Le parcours, encore une fois, est impressionnant et je suis d'accord avec Marquinhos, c'est plus impressionnant et plus dur, comme il dit, de le refaire cette année.
Et après, l'adversaire que tu sors hier, pour moi, c'est l'adversaire le plus difficile que tu as affronté sur une phase aller-retour depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG. Sortir ce Bayern-là de cette manière-là, c'est monstrueux.
Comme tu avais sorti Liverpool aussi l'année dernière, qui était soi-disant la plus grosse équipe européenne.
Ajouter à cela sa situation, on verra après la finale. Mais c'est peut-être son baroud d'honneur et peut-être que voilà, il va vivre sa dernière grande rencontre de Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain.
Bon, en tout cas, voilà pour les mots de Marquinhos. On va revoir le parcours d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur After Foot Télé sur YouTube. Un parcours de champion après le barrage contre Monaco, huitième de finale contre Chelsea, Liverpool et ensuite le Bayern Munich. Aucune défaite dans ce parcours.
23 buts marqués. Hein. Voilà. 23 buts marqués en 8 matchs, c'est une moyenne de 3 buts par match. Sur ces matchs-là, c'est quand même très fort.
Est-ce que, tout simplement, ce PSG est plus fort que l'an dernier, pour vous?
Oui. Oui, c'est la version améliorée de ce que l'on a vu l'an dernier, avec encore une fois toutes les blessures, tous les soucis qu'il y a eu à l'automne, en début d'hiver. Le Paris Saint-Germain a réussi à surmonter tout ça et on voit des joueurs qui sont peut-être encore plus forts dans une phase de maturité encore plus importante que la saison dernière. On s'était posé la question au cœur de l'automne, moi j'avais du mal à y croire. Est-ce que le PSG peut faire le back-to-back? Est-ce que le PSG est plus fort cette saison? Oui.
Plus fort aussi, c'est ton avis, Jimmy?
Franchement, moi j'ai mis des réserves sur en début de saison et tout au long de la saison, même jusqu'il y a très peu de temps, sur L'absence de recrutement de doublure à Hakimi d'une part, la mauvaise gestion du dossier des gardiens de but d'autre part. Tu regardes le match d'hier, Warren Zaïre-Emery, il te fait un match exceptionnel. Il a complètement annihilé Kevin Diaz.
Luis Diaz.
Lapsus révélateur.
À peu près pareil.
Lapsus révélateur. Luis Diaz.
C'est son frère.
Il aurait plus de mal face à Kevin Diaz.
Probablement. C'est sûr. Probablement. Sur le match d'hier, probablement. tu vois, Luis Diaz, c'était son cousin par rapport au match aller. Safonov, bon an, mal an. Il a réussi. Alors, moi, il m'inspire toujours pas confiance.
On en parlera des individualités.
Dans sa manière de.
Mais globalement,
de faire.
Tu les trouves plus forts.
Mais au global, oui, parce qu'en fait, c'est une équipe jeune. Je pense que le président Nasser Al-Khelaifi en a parlé après le match. C'est sur un cycle de 5 ans. Et c'est ce qu'on avait évoqué un peu après le titre de l'année dernière. C'est que tu as une possibilité, à travers la moyenne d'âge de cet effectif, de te projeter, de te dire qu'à leur âge, c'est des joueurs qui progressent encore. Et individuellement, et collectivement, évidemment, quand tu as une année d'expérience en plus. Et en fait, surtout, on l'avait déjà évoqué ça, mais c'est qu'avec Luis Enrique, ils ont appris à gagner, ils ont débloqué cet aspect psychologique qui fait que quand tu sais gagner, tu entres, je pense, dans une autre catégorie d'équipe, dans une autre dimension qui fait que tu es sûr de ta force, que tu ne paniques jamais, que les mésaventures qu'on a c'est pu ça, connaître en fait. Sur les années précédentes, elles n'existent plus. Et moi, le premier, j'ai eu du mal à m'en convaincre. Moi, c'est bête, je vais te dire une bêtise, mais hier soir, quand Harry Kane égalise, je sais pas pourquoi, je me dis « reste deux minutes, je suis pas confiant ». Mais en fait, mais tranquille, les mecs, il n'y a aucune panique, deux minutes. Non, mais il y a une époque où tu te disais, ça bien peut sûr, basculer du mauvais sûr. Côté à tout moment. Et avec cette équipe-là, et avec cette expérience-là, et avec cet entraîneur-là, ce staff-là, tu n'as plus tout ça, en fait. Ils sont rentrés dans une autre dimension, ils sont encore plus forts que l'année dernière. Et s'ils continuent, et si par bonheur, ils arrivent à garder cette structure d'effectif-là, je ne vois pas ce qui peut les arrêter maintenant.
En fait, ça rejoint ce que tu disais, Jimmy, c'est que les individualités sont toujours aussi fortes. Ça, c'est un constat. Bon, certains ont même encore augmenté le level, c'est le cas de Kvaratskhelia. Mais là où ils sont encore plus impressionnants, et vraiment du stade, ça se ressentait. Et à un moment, je me souviens, on parlait avec Jean-Louis qui était à ma droite, c'est que cette équipe a appris à mieux subir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce qu'il y en a eu des vagues hier, hein, et des sacrées vagues, hein, pas des petites, même si en face ils étaient moins adroits qu'au match aller, mais malgré ces vagues-là, ils arrivent à mieux gérer qu'avant, je trouve, dans ces moments de temps faibles. Et ça fait partie des petites choses qu'on a entendues avant le match, c'est-à-dire que Luis Enrique avait accentué son discours sur ça. C'est celui qui passera sur cette double confrontation et surtout sur ce match retour, c'est l'équipe qui arrivera le mieux à gérer ses temps faibles.
Mais c'est ça, c'est le côté.
Et Paris a réussi ça en fait.
Ouais. C'est le côté caméléon de cette équipe qui est capable d'être flamboyante, qui est capable de subir. Hier, tu joues le Bayern, ils ont mis plus de 150 buts dans la saison, mais tu leur laisses quasiment rien.
T'as pas reconnu le Bayern.
Il y en a qui disent que c'était pas un bon Bayern.
C'est
parce
tout.
Mais parce qu'ils ont été monstrueux derrière.
T'as presque pas reconnu le PSG aussi hier.
Le PSG a éteint le Bayern.
Oui,
quand même. Moi,
mais
je trouve
quand
que...
tu vois Safonov mettre des longs ballons en touche, c'était quand même très imprévisible, je trouve, de modifier la structure, le plan de jeu. Mais moi, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je pensais que le PSG allait essayer, tant que faire se peut, rentrer dans le Bayern, comme ils l'ont fait dans les 15 premières minutes. Ils ont aussi rajouté cette corde à leur arc, savoir souffrir.
Mais tu fais pas que bétonner, puisque finalement, si tu regardes le match d'hier, t'as plus de cases franches que le Bayern.
Oui,
mais t'as moins cette capacité à piquer en contre, à être fort dans la transition
Neuer,
avec les joueurs que
Neuer
t'as.
Fait des gros arrêts.
Et Neuer, il fait des grosses parades.
Bien sûr.
Neuer, c'est le meilleur quasiment du côté du Bayern.
Donc, ce qui veut dire que la stratégie était bonne pour Luis Enrique. Tiens, on va l'écouter, tu en parlais en début de ce podcast.
Allez.
Arthur, la réponse de Luis Enrique quand Arthur lui pose une question. Bon, c'est pas que pour Arthur, je pense, cette réponse, c'est un peu pour l'ensemble des gens qui ont douté du PSG. Écoutez Luis Enrique après le match.
Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de ce qui, de la phase de groupe? Vous vous rappelez ou pas? Sur quoi? Que je ne vais aucune équipe meilleure que nous. Je l'ai dit, quand tout le monde critiquait, tout le monde a dit que l'équipe, les Paris Saint-Germain, rien. Et je ne me ratais pas.
Je sens un peu d'affection quand même dans les yeux de Luis Enrique pour toi.
Mais il taquine.
Non, mais il taquine et règle ses comptes quand même aussi. Parce que c'est vrai, et nous les premiers, on a fait cette émission pendant toute l'année. Donc il y a eu des doutes aussi, pas forcément sur Luis Enrique, mais sur la stratégie du Paris Saint-Germain.
C'est global.
Et lui, il te dit qu'en gros, et c'est presque un peu fou, il le savait, quoi. Il savait, il allait gérer. Est-ce qu'on peut croire à cette théorie-là, que tout était prévu?
Ces déclarations-là, ça me rappelle sa première saison. Souvenez-vous, il nous avait dit au mois de janvier, on sera meilleur. Au mois de février, on sera meilleur.
On sera meilleur la saison
prochaine. Et en arrivant au mois de février, le PSG était meilleur. Il nous a dit, alors, vous n'avez pas cru quand je vous l'ai dit il y a deux mois? Là, en fait, c'est la même. Et c'est-à-dire que c'est un plan de route, c'est un plan de bataille, un plan de communication qui... on peut pas lui donner tort. Voilà. Oui, on a été critique, on a douté un moment, mais il a raison de nous rentrer dedans aussi un petit peu hier soir.
Mais ce qui est impressionnant, ça reste quand même la planification effectuée en fait. Et,
oui.
Et tout a fonctionné à merveille. C'est-à-dire quand il nous disait, et moi je faisais partie des sceptiques, encore une fois, je le reconnais aisément. Moi, je pensais pas que arrivé février, mars surtout, tu allais avoir une équipe qui allait se retrouver physiquement. Même l'exemple le plus marquant pour moi hier soir, c'est Fabien Ruiz. Mmh. Moi, j'ai vu Fabien Ruiz rentrer à l'aller. Je me suis dit, mais en fait, ça va être une catastrophe au retour avec l'absence d'Hakimi. Je me suis dit, ça va être très compliqué. J'ai revu le match contre Lorient. Je ne retrouve pas Fabien Ruiz. Hier, début de match, hop, c'est lui déjà la passe décisive. J'ai appelé ça une passe décisive. Quasiment celui qui fait le décalage sur le but de Dembélé pour Kvara, c'est Fabien Ruiz. Pendant tout le match, il arrive à tenir. Il les tire même jusqu'à la 70e minute. À aucun moment, tu vois que ça faiblit physiquement. Ils ont cette capacité à être dans l'intensité. Enfin, je veux dire, hier, la débauche d'énergie, dans le pressing, dans cette manière de d'étouffer le Bayern, de faire des prises à deux constamment sur les joueurs, etc. Non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant et bravo à eux d'avoir réussi ça sans avoir un effectif ultra fourni, encore une fois. Alors après, certains diront, c'est peut-être aussi la Ligue 1 qui te permet ça parce que voilà, t'as pas une compétitivité telle que voilà, par rapport à Arsenal par exemple, oui, c'est sûr que t'as pas une concurrence telle que tu peux te permettre de jouer pendant 6 mois en Ligue 1 avec des équipes plus que remaniées. Hier, il le dit en conférence de presse, j'ai pas vérifié, mais il dit que pas une fois cette saison, il n'a pu aligner ses 10 joueurs de champ titulaires en Ligue 1.
C'est sa dernière réponse et d'ailleurs, on en reparlera d'ici là, hein, mais je l'interprète comme c'est mon plus grand regret de la saison et peut-être que là je commence à toucher du doigt cet espoir là. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il a envie, il veut de nouveau aligner cette équipe qu'il avait lors de la finale l'année dernière. Donc est-ce que ça veut dire que bon, on va surveiller le retour d'Hakimi, mais si Hakimi revient bien,
c'est Warren qui saute.
Ça va être des débats.
On verra, mais il est malin parce qu'il laisse cette porte ouverte là en sortant cette phrase là en toute fin de conférence de presse.
Juste une petite chose, parce qu'on parlait des doutes, on a eu des doutes et je pense de manière quand même légitime, notamment après la double confrontation face à Monaco. Faut quand même se rappeler la tête de Woodfaes, ça passe à un cheveu.
Complètement.
Et qu'à ce moment-là, t'es quand même dans une.
Mais souviens-toi ce qu'il disait aussi avant cette double confrontation, Luis Enrique. Il avait envie de jouer un match de barrage.
Oui, bien sûr. Et je pense que ça leur a permis de retrouver la dynamique, le physique, mais on les sentait.
De programmation.
Et encore une fois, de manière très légitime, vraiment en difficulté physiquement. Sauf qu'ils ont su tout réenclencher, tout s'est remis dans l'ordre. La plupart des blessés sont revenus. Et effectivement, force est de constater qu'il faut, écouter Luis Enrique lorsqu'il joue comme ça un petit peu à Nostradamus.
Bon, on va revenir sur le match désormais, puisqu'on a parlé de cette qualification historique pour le Paris Saint-Germain, deux finales de Ligue des Champions de suite. Et on va parler des individualité dans un instant, dans la deuxième partie d'After Paris. À tout de suite. Deuxième partie d'After Paris, un After Paris exceptionnel puisqu'on fête la qualification en finale du Paris Saint-Germain, finale de Ligue des Champions. Ça sera le 30 mai à Budapest face à Arsenal. On aura l'occasion d'ici là de vous présenter cette finale, les forces en présence. On parlera de l'ancien du Paris Saint-Germain, Arteta bien sûr, et des joueurs d'Arsenal. Mais d'abord, on va se concentrer sur le match d'hier face au Bayern avec Jimmy, avec Julien et avec Arthur. Et donc ce petit moment tant attendu, vous allez prendre vos tablettes, votre petit stylo.
Ça m'avait manqué ça.
Rien n'est préparé, vous mettez le nom de l'homme de match pour vous. Et vous n'avez pas non plus 3 heures parce que il faut qu'on avance quand même. Alors peut-être que vous allez avoir la même réponse, peut-être que ça va être différent. En tout cas, moi j'en ai un dans ma tête, on va voir si on est d'accord avec vous. Julien a été plus rapide, vas-y Julien, ton homme.
Écoute, j'avais envie de mettre le collectif, j'avais pas envie de mettre Pacho pour pas faire comme les autres, mais ils vont peut-être faire autre chose. Et j'ai mis Warren, parce que voilà, il était à un poste, alors certes qui l'arpente quand même depuis plusieurs mois, mais il avait face à lui l'un des meilleurs ailiers du monde. Il y a eu un début un petit peu compliqué, il y a eu une perte de balle qui a failli coûter cher, mais sur l'ensemble du match c'est encore bluffant ce que fait Warren Zaïre-Emery face à l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Il est capable de tout faire, il est bon à tous les postes. Enfin, voilà. Warren, pour l'ensemble, c'est presque plus pour l'ensemble de son œuvre sur ces 6 derniers mois.
Jimmy, t'as mis qui, toi, comme homme du match?
Ouais, du coup, c'est horrible parce qu'il y en a aucun de nous qui met pas de chaud alors que je pensais qu'il y en avait.
Donnez-moi cette tablette, là, vous allez vous mettre pas de chaud, moi.
Moi, j'ai mis Joao Neves parce qu'en fait, c'est le cœur qui parle, il me rend fou, ce mec. Mais vraiment, enfin, je veux dire, quand
attention,
tu le regardes jouer,
non, déclaration d'amour.
Non, mais
Jimmy
vraiment,
Brown,
moi je suis fou de ce mec. Je suis fou de ce mec parce qu'il a, tout ce qu'il fait.
Il y a eu un boulot de dingue hier.
Et le mec au milieu, il s'arrache de partout.
En défense hier, plus que d'habitude.
Il s'arrête jamais en fait. Tu sais, moi, je m'en suis jamais caché. J'étais un amoureux de Verratti. Et en fait, j'ai l'impression que Joao Neves, c'est quasiment la qualité technique de Verratti, mais en fait avec un niveau d'intensité 10 fois supérieur, ah ouais. La capacité pendant 90 minutes, en plus il est bon de la tête, il a encore une occasion hier, il sent le but, il est complet, il va harceler, il est collectif. Et je le vois partout, moi, en fait, au milieu. Je le vois partout, João Neves.
Et il est monstrueux. Il compense beaucoup, hein, en défense. On l'a vu beaucoup.
Il plus, encore plus hier que d'habitude. Il est venu vraiment soutenir dans le cœur du jeu.
Mais c'est vrai que quand on regarde pas le match comme ça, c'est pas lui qui saute aux yeux. Parce que parfois,
c'est un travail de l'ombre,
João Neves. À part quand il marque des buts de la tête. Il aurait pu en marquer un, d'ailleurs.
Mais tu vois, au-delà du match d'hier, il a cette capacité quand même à faire. En plus de ça, c'est-à-dire que quand tu fais. Normalement, tu te dis, il va perdre en lucidité. Mais le mec, il est quand même toujours juste. Dans ses passes, dans ses décalages, parfois dans ses frappes, sa capacité à jouer de la tête, etc. Pour l'ensemble de son œuvre, moi je mets João Neves, même si effectivement on aurait pu parler de joueur préféré de François.
Bon, on va en parler de Pacho quand même.
Fini avec le trophée d'homme du match.
Pour moi, c'est vraiment l'homme du match, mais d'abord ton homme du match, Arthur.
Vishak Varasrelia.
Comme il ne sait pas écrire en entier, vous voyez, il a écrit que Vara.
Oui, ouais. J'ai fait simple. Parce que.
Je
ne
sais toujours pas l'écrire correctement.
Je pense que je peux l'écrire en entier. Vraiment. Parce que tout ce qu'il a tenté, il l'a réussi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ça va du débordement sur le but d'Ousmane Dembélé où il arrive à passer Upamecano, à le prendre de vitesse. Tous les dribbles qu'il a tentés, il les a réussis. Je sais pas quoi dire en fait.
Sigvara, il met le but quand il démarre avec le sombrero. Ouais, ça finit par un but.
Non, c'est hallucinant.
C'est là on arrête tout, on range tout, on lui donne la compétition, le ballon d'or. C'est tout de suite, je pense, ça rentre dans le panthéon au début du PSG.
Son centre, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur le centre. L'appel, le contre-appel, la fixation, la passe.
Il est
impeccable
trop fort,
pour Dembélé, ça fait basculer le match. Oui, c'est sensationnel.
Alors les statistiques de Gvara, vous les voyez pour le match. Et une autre statistique qui est intéressante, c'est que c'est le premier joueur à être décisif 7 matchs de suite en phase finale de Ligue des Champions. But au retour face à Monaco, 2 buts, une passe face à Chelsea à l'aller, 1 but au retour, 1 but contre Liverpool au match aller au Parc, une passe D au retour, 1 doublé contre le Bayern, on s'en souvient bien sûr, au match aller, et 7 passes D au match retour. C'est vrai que malheureusement, il est presque pas dans le débat du Ballon d'Or puisqu'il y a la Coupe du Monde. On sait à quel point la Coupe du Monde est importante.
Malheureusement.
Les années pour le Ballon d'Or.
Ouais.
Mais moi, je suis de quoi qu'il soit pas Ballon d'Or.
Je pense que ouais.
Lui, il s'en fiche.
C'est pas mon sujet. Oui, je pense que d'ailleurs vu le profil, le mec que
c'est. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que pour moi, peut-être que dans l'effectif actuel du PSG, je sais que c'est un collectif.
C'est le meilleur.
C'est celui qui ressort actuellement.
Moi, je suis entièrement d'accord.
Si tu dois donner le ballon d'or à un joueur du PSG, moi, je le donne à Gvara.
Mais si tu dois choisir entre gagner une deuxième Ligue des Champions et aller chercher un ballon d'or,
non,
je pense qu'il préfère quoi.
Oui.
Voilà, et le mec, il va aller, j'espère.
Souligner le côté facteur X de Gvara Skelia.
On
se souvient d'Embélé l'année dernière qui avait été justement ce joueur un peu déclic. Et d'ailleurs, il a eu le ballon d'or parce que c'était celui qui avait fait les différences, même si, encore une fois, c'était le collectif qu'il fallait mettre en avant. Là, j'ai l'impression que c'est Gvara Skelia. Julien ?
Oui. Il a changé beaucoup de choses l'année dernière en ramenant de la concurrence, en étant aussi décisif sur certains matchs. Là, il est à quasiment tous. Et puis, c'est tellement complet, c'est tellement précis, c'est tellement létal. Il vole en ce moment, Kvaratskhelia, là où les autres. Ousmane Dembélé, elle revient très fort. Doué fait un bon match hier, mais on a eu des périodes un petit peu plus compliquées où il y a un petit peu plus d'irrégularité chez les autres. En ce moment, on se demandait s'il y avait un Gvara Ligue 1, un Gvara Ligue des Champions. On le voit plus souvent en Ligue des Champions, mais il a atteint aussi cette forme de plénitude au niveau de la régularité.
Et dire que certains nous disaient qu'on pouvait pas faire des stats en défendant comme il défend, eh bien, il prouve peux être un joueur ultra complet des deux côtés du terrain. Et c'est aussi la caractéristique de cette équipe de Luis Enrique, des éléments offensifs de l'équipe de Luis Enrique. Il ne faut pas non plus minimiser, c'est-à-dire qu'il est monstrueux, je rejoins tout ce que disait Julien, mais dans sa débauche d'énergie lui aussi, dans sa capacité à bloquer, à revenir, à faire des efforts, etc. Non mais les mecs, franchement moi je suis bouche bée de devant. En fait, je vais juste faire un pas de côté et... Parce que Julien, il est un tout petit peu plus âgé que moi. On suit le PSG depuis plus de 25 ans. Et en fait, tu te rends pas compte. Quand tu fais un peu, il faut prendre un peu de recul et se rendre compte de la période qu'on est en train de vivre. Quand t'es un suiveur du PSG et la chance que t'as de vivre cette période. C'est l'âge d'or. En fait, ce qui est en train de se passer là, il faut en profiter, il faut le savourer. Et peut-être que ça n'existera plus jamais. D'être autant dominant pendant une période comme ça, sur deux saisons. Tu t'imagines le nombre de souvenirs, de matchs références, de flash que tu peux avoir sur les deux dernières saisons en Ligue des Champions? C'est absolument monstrueux.
Et
c'est pas normal, en fait.
À l'échelle de la Ligue des Champions, c'est quasiment unique, parce que tu le rappelais, il n'y a que le Real qui a fait le doublé dans l'ère récente de la Ligue des Champions, depuis que la Ligue des Champions s'appelle comme ça. Et j'ai regardé sur des clubs qui ont fait deux finales de suite, il y en a très peu. Tu as Valence, tu as l'Ajax, tu as le Bayern, tu as Manchester United. Et tu as le Paris Saint-Germain en 35 ans. Ça veut dire que ça arrive en moyenne une fois tous les 7 ans. C'est unique ce qu'est en train de réaliser le PSG.
Et il y a arrivé en finale, et il y a la manière dont tu arrives en finale, en plus, et le jeu déployé, etc. Et cette trace-là qui est en train d'être laissée, il faut juste dire merci, bravo, et profiter du moment. Voilà.
Alors, je voulais faire ce focus quand même sur Pacho, homme du match hier. On va quand même faire une parenthèse sur lui, parce que c'était son 100e match en plus avec le PSG contre le Bayern. Il a disputé l'intégralité des 15 rencontres de Ligue des Champions, et une stat magnifique, moi que j'adore, pour un défenseur.
C'est incroyable, ça.
Aucun carton jaune lors des 42 derniers matchs officiels avec le PSG. Le dernier, c'était donc Tottenham 2025, le trophée de la
Supercoupe d'Europe.
Match de rentrée, ouais.
Mais honnêtement, franchement, c'est Pacho,
monsieur propre,
meilleur défenseur du monde. Voilà. Là, on est dans les superlatifs. On parlait du Ballon d'Or.
Est-ce que lui, il peut être dans la discussion pour le Ballon d'Or, parce qu'il va la jouer, la Coupe du Monde
avec l'Équateur.
Non, c'est compliqué. Ça part de loin quand t'es défenseur.
Mais dans l'Équateur.
Ouais, deuxième de la zone sud. Ils ont un groupe compliqué, je crois, mais
dur à jouer.
Fallait aller le chercher. Là, la recrue Pacho, il était à Francfort. Voilà, il a pris beaucoup de coups hier en plus contre le Bayern.
C'est ce que j'allais dire.
On avait quand même souligné les difficultés de la défense centrale au match aller. Moi, je comprends tout à fait qu'il mérite le titre d'homme du match, même si c'est anecdotique.
Il s'est beaucoup battu. Il est souvent à la limite, mais jamais il ne va trop loin pour justement se prendre un carton. Dans l'attitude, il est exemplaire. Dans le staff, tout le monde ne dit que du bien de lui. Il a pas de défaut, ce garçon. Je sais pas. Le jour où on lui en trouvera un, faudra me prévenir.
C'est là que tu vois les champions que c'est devenu, ces mecs-là. En fait, c'est que après le match aller, il a été un peu critiqué.
Un peu.
Et on peut associer Marquinhos, parce que Marquinhos, combien de fois tout le monde l'a vu mort en se disant, tu peux pas aller en finale de Ligue des Champions une deuxième fois. Dès le début de saison, il était pointé. C'est le maillon faible de l'équipe. On va pas y arriver. Il est trop vieillissant, etc. Leur capacité à se remobiliser, à sortir le match qui sort. Et évidemment, Pacho le premier. Moi, hier, Harry Kane, la gueule du match d'Harry Kane hier par rapport à l'aller, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et c'est grâce à eux, et c'est grâce aussi au travail de Luis Enrique. On peut y revenir un petit instant, mais voilà, les prises à deux, de bloquer d'un côté avec Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Olise, de l'autre, Marquinhos. Un peu comme contre Chelsea, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'aller, tu avais Marquinhos en 1 contre 1 contre Pedro Neto. Il avait ajusté sur le match retour à Stamford Bridge. Là, c'est pareil, il ajuste, il y a Warren qui fait un match énorme à côté. Non mais enfin,
tactiquement c'est très niveau. Tu voulais rajouter quelque chose?
J'ai failli mettre Luis Enrique homme du match parce que les choix tactiques, ils sont impressionnants. Bon, je sais que Jimmy a du mal à le croire, mais moi, rien que l'histoire de Safonov, je trouve
ça
dingue.
Alors, on peut en parler justement. Safonov, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ils ne sont peut-être pas au courant. Ils ont vu Safonov mettre les ballons en touche, que ce soit d'ailleurs au match aller. On était très surpris de nombre incalculable de ballons rendus à l'adversaire. Et nous, on le voyait comme ça, comme un ballon rendu à l'adversaire.
On lui a mis 3.
Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé
d'ailleurs.
Il est vraiment si mauvais que ça avec les pieds? Et là, quand on voit le match retour, on se dit, c'est pas possible, il y a une consigne. Donc, quand on voit le visage de Luis Enrique, le visage de Safonov, lui, il se dit pas, oh, bah, j'ai raté mon dégagement.
C'est
non,
même plus que ça.
Ça a l'air d'être vraiment la consigne.
Alors, je me permets un petit dégagement sur le sujet, parce qu'on en parlait justement quand je suis arrivé à la rédaction, j'ai échangé avec Arthur sur le sujet. On est d'accord qu'après le match aller, personne ne nous expliquer, parce que moi je lis des articles aujourd'hui, on nous explique que Olise a raté son match parce que Safonov, en gros, fais un raccourci, mais à peine.
Dégagé de l'autre
parce
côté.
Parce que Safonov a dégagé en touche, donc ils ont réussi à le fermer. La semaine dernière, il fait la même chose. Olise, il fait un match monstrueux, personne n'en parle. Rappelez-vous juste, deuxième chose, avant de passer la balle là-dessus, l'année dernière, Donnarumma, début de saison. Vous vous souvenez, Donnarumma, il cherchait à jouer court tout le temps. Et à un moment donné,
c'était la
en phase finale, la consigne, ça a été on arrête, tu balances.
Oui.
Moi, je pense que Luis Enrique et son staff sont conscients des lacunes et des limites de Safonov. Donc, ils lui ont dit tu vas jouer loin, tu vas jouer haut, tu vas choisir une zone, évidemment pas dans l'axe pour pas que les ballons reviennent, tu choisis une zone, tu vas dégager loin et long sur un côté. Est-ce qu'il avait moi j'ai du mal à croire
donc
qu'il avait fait, pour consigne.
Il en met jamais une dans le terrain.
Et après ils se sont rendus compte au fur
moi je veux bien je suis d'accord avec toi.
Non, mais aussi comment tu peux être d'accord avec ça.
Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, il faut pas trop en faire non plus sur la stratégie.
Ça devient une consigne, balance des ballons en touche pendant tout le match.
Bah oui.
Arthur.
Alors, juste pour répondre très rapidement avant de vous détailler vraiment toute l'histoire.
Je ne sais pas si on aura le temps, donc vas-y.
Oui, la différence entre le match aller et hier soir, c'est que hier soir, il y avait une prise à deux sur Michael Olise. Et je pense que c'est une vraie différence.
Et c'est ça la clé.
Je pense que c'est une vraie différence.
Bah, bien sûr, c'est ça.
Mais que cet élément de dégager directement en touche sur le côté gauche rajoute au fait que Olise était en difficulté. Donc en fait, on m'a tout raconté pour vous dire un petit peu l'histoire. Avant le match aller, ça a été étudié par le staff parisien et par Luis Enrique de dégager le plus loin possible en touche sur des phases de jeu où en effet le PSG peut être en difficulté à relancer court, ça allait isoler de l'autre côté Michael Olise. Voilà, le bloc allait se concentrer, remonter sur le côté gauche, l'endroit de la touche, et Olise à l'opposé se retrouver trop seul pour la reconstruction derrière d'une offensive du Bayern. Moi, du coup, j'ai posé la question parce que je me suis dit, mais comme Jimmy, je me dis, c'est pas possible, il est mauvais, je lui avais mis 3 au match aller d'ailleurs, mais il y a culpa. Et bien en fait, on m'a dit, non, ça a été travaillé. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'au club, beaucoup en rigolent parce que il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui interrogent le staff parisien sur, mais il faut le faire travailler au pied, c'est pas possible, il est catastrophique. Mais je peux vous dire qu'eux, ils en rigolent. Eux, ils sont morts de rire. Parce que eux, c'est planifié.
Ouais.
Ça a été calculé. Safonov est très content.
Il fallait
personne
faire
ne l'a envoyé sur le banc de touche.
Ça veut dire que Safonov, il accepte aussi de passer pour
bien
un mauvais joueur au pied.
Mais arrête de... Parce que c'est un crack au pied, Safonov.
Non, c'est pas un crack.
Mais arrêtez. On regarde les matchs depuis le début
de saison. C'est pas un crack, mais si à chaque fois, il vise la touche.
Julien, tu les vois comme moi, les matchs. T'as un souvenir d'un match où il est au pied.
Non, c'est pas
sa force. C'est pas sa force. Il a d'autres qualités.
Donc c'est pour compenser une lacune au pied pour toi.
Ce que je retiens du propos d'Arthur, c'est que la clé hier, ça a été les prises à deux.
Ça a été réfléchi.
Tu peux me raconter ce que tu veux.
Ces dégagements.
Oui, mais à l'aller, ces dégagements, c'était les mêmes. Et au final, t'as pris un bouillon pas possible.
Pas de prise à
t'as
deux.
Une capacité, s'il n'y a pas de prise à deux, à changer. Parce que ces mecs-là, ils ont la qualité technique sur une passe, sur un pas, de faire un décalage, un changement d'aile. Tu crées le déséquilibre de l'autre côté. Faut arrêter de. Enfin, je veux dire, c'est bien d'analyser la tactique et tout. C'est génial, Luis Enrique, c'est monstrueux. Bah, encore une fois,
on peut
moi,
penser
à dire.
Quand même que Luis Enrique, il essaye d'inventer des choses.
Mais
et
bien sûr.
Des
mais bon, qu'on me dise que.
On n'a pas forcément vu.
Que balancer des ballons en touche, ça révolutionne le football.
Vous aurez compris, Jimmy n'aime pas les innovations.
C'est pas du tout ça, mais on faut doser, c'est
et
tout.
Après,
c'est
quand
très bien joué.
Vitinha, par exemple, systématiquement sur le coup d'envoi, met le ballon en touche, tu vois, c'est aussi une stratégie.
Non, mais
voilà,
ça,
on la voit.
Ça, évidemment.
Ça se fait depuis longtemps. Évidemment.
Tu vas pas me dire que Vitinha est
mais
pas
non,
bon
mais
pied.
Ça n'a rien à voir. Non, mais je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est du pragmatisme de la part de Lucien Riquet. C'est comment on exploite une lacune en minimisant ses impacts, en fait. Et il s'est dit.
T'as vu comment il est fort parce que je voulais qu'il fasse son mea culpa sur Matvei Safonov.
Il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas.
Mais Safonov, bravo, il est en finale des champions,
match.
Le mec. Mais Safonov face caméra, bravo Matvei Safonov. Très gros match, la parade qu'il fallait sur Moussiala. Pas académique sur les sorties, mais à chaque fois, il y a une présence. Il va mettre le point à chaque fois. Il est courageux, c'est un gardien courageux. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de sortir, de s'imposer dans sa surface de réparation. Donc bravo pour ça. Encore une fois, kiffé par ses partenaires. Il y a un match défensif énorme, il en fait partie. Maintenant. Que Matvei Safonov au pied ce soit pas
Raya.
David Raya
qui
va
qui est très bon au pied,
c'est un bon exemple ou Ederson en son temps avec City, oui ça le sera jamais bon. Mais c'est pas grave, bravo à lui.
Voilà, c'était là-dessus qu'on termine le podcast After Paris.
Regardez que les 30 secondes au milieu pour le mea culpa
sur Safonov. Ouais, faudra vous faites votre choix bien sûr votre
il y a une finale à gagner maintenant.
Merci
encore,
Jimmy.
C'est pas, tu t'es allé jusque là, c'est pas pour au final
on en parlera de tout ça, de cette finale. On a encore 3 épisodes à faire avant la finale, donc évidemment on va faire monter l'ambiance, monter la pression. N'hésitez pas à vos messages, votre homme du match aussi en commentaire sur YouTube. Merci beaucoup à Jimmy Brown d'être passé.
Merci à
merci
vous.
Merci Arthur Perrault.
Salut messieurs.
À très bientôt. Merci Julien Taxis. Pensez à liker, partager, commenter, vous abonner donc pour ne pas rater les prochains numéros d'After Paris pour aller jusqu'au 30 mai et cette finale à Budapest PSG Arsenal. À très bientôt. Ciao.
RMC After Paris.